Contes et lectures. Carlo Ruexeguer.
Après les outrances âpres et amères des lectures précédentes de Daniel Helms, revenons aux contes en tant que tels. Quelques contes zen vous accompagneront dans l'automne qui commence, et une certaine réflexion, même une petite introspection, les papatans ronds, coucou panier et au chaud, c'est pas désagréable. Et ce zen qui en hôte nous indique le lâcher prise, ce lâcher prise si difficile à atteindre parfois. Le premier conte en lecture sera le conte du coucou. Le coq français, coquerique en français, cocorico. Le coq allemand en allemand, kirikiki. Et le coq anglais comme il se doit en anglais, cookie doodle doo. Les coqs parlent la langue de leur pays respectif, ou bien serait-ce les humains qui interprètent à leur guise le cri innocent des gallinacés. La question fait sourire, mais il est un chant que l'on ne peut certainement pas moduler à son gré, celui du coucou. Comment en effet transformer cette musique binaire, répétitive, d'une si évidente clarté, coucou, 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 celui qui a entendu une fois la voix bien timbrée du voltigeur du printemps, c'est bien que le coucou coucoule et rien d'autre. Pourtant, au pays du soleil levant, on affirme que le coucou ne dit pas coucou, coucou, mais caco, caco. On ajoute même qu'il a pour ce faire une excellente raison. Il y a cela des airs et des airs. Papa Coucou demanda un jour à sa fille de lui gratter le dos. Ce qu'il ne pouvait exécuter seul malgré les tortillements du bec vain et désespéré. La demoiselle traversait les orages de l'adolescence. Elle refusa au prétexte que papa n'aimait guère certains coucous juvéniles qui arboraient une tenue brun rouge du plus mauvais effet qu'il faisait ressembler une crécelle femelle. Grotesque, fulminait papa, un coucou gris s'habille de gris. Tu n'y connais rien, c'est la dernière mode, rétorquait sa fille. Bref, quel que soit le motif, la demoiselle Coucou refusa de rendre service à son père. Ce dernier, que son dos démangeait furieusement, alla se frotter contre un rocher pointu. Il se blessa, la plaie s'infecta, il mourut. Lamentable histoire. La jeune fille Coucou en éprouva un tel chagrin que depuis elle répète « Kako, Kako », ce qui signifie en japonais « Je gratterai ». Je gratterai, oui, je gratterai le dos de mon papa. Hélas, il est trop tard. Le remords est une plaie ouverte. Il a des effets délétères sur les autres et sur soi. Il convient, dit le sage, d'assumer ses erreurs, d'offrir réparation et de passer outre. Les fleurs au printemps, la lune en automne, la brise fraîche en été, la neige en hiver. Débarrasse ton âme de toute pensée vaine. Chaque saison sera pour toi un enchantement. Il s'agit d'un texte d'un certain Mumon qui date du XIIe siècle. Toujours dans la série des contes zen, La femme de glace. Il était une fois un jeune homme seul. Il vivait dans une pauvre cabane, sans amis ni parentèle. Un matin d'hiver, il observait les stalactites qui se formaient au bord du toit, gouttes de cristal étincelant dans le soleil. Il s'écria « J'aimerais que le ciel m'envoie une épouse qui eût la blancheur irisée, la merveilleuse beauté de la glace. » Ce soir-là, il s'apprêtait à se coucher quand l'on frappa à la porte. « Qui est là ?»« Je suis la jeune fille que vous avez réclamée ce matin au ciel. Je viens m'offrir à vous comme épouse. » Le jeune homme, intrigué, ouvrit aussitôt. Sur le seuil se tenait une jeune femme très belle. Ses mains étaient d'opaline. Ses joues nacrées scintillaient sous la lune. « Entrez, » fit-il, séduit. Quand la jeune femme fut installée dans la cuisine, il l'interrogea. « Êtes-vous bien décidé à m'épouser ? Je suis pauvre, je loue mes services à qui veut bien m'employer. Je suis en mauvais parti et vous êtes si belle. » Elle répondit qu'elle savait tout cela et que, s'il voulait bien l'accepter, elle resterait dans sa maison. Ils se marièrent et vécurent toute une année dans une harmonie parfaite. Un jour, l'un de leurs voisins, qui était un homme serviable et courtois, les invita à une fête d'anniversaire. Il leur proposa d'utiliser à cette occasion le bain chaud qu'il venait de faire installer chez lui et dont il était très fier. La femme refusa, prétextant qu'elle craignait l'eau chaude par-dessus tout. Mais le jeune mari insista. « Nous ne pouvons offenser notre hôte, un voisin si aimable. » Elle céda. Le soir du bain, le mari, ne la voyant pas revenir, s'inquiéta. Il alla la chercher. À sa place, il ne trouva que deux rubans bleus et un peigne d'écaille qui flottaient sur l'eau. La femme de glace avait fondu. Ainsi a-t-il été rapporté. Le bouddhisme zen nous propose souvent des contes énigmatiques, mais dans La femme de glace, la morale de la fable paraît évidente. Un jeune mari, par ignorance ou sottise, envoie son épouse à une mort certaine. On pourrait la résumer ainsi : il faut réfléchir avant d'agir. Cette lecture n'est pas inexacte. Autre et plus profonde est la vision zen. Ce qui est, est. Le mari, en refusant la réalité, en niant les faits, son épouse est une femme de glace, s'interdit symboliquement l'accès à la voie de la libération, celle du noble sentier occulte. La vue juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, la subsistance juste, l'effort juste, l'attention juste, la concentration juste. Chacun de nos instants, s'il est juste, est une goutte d'éternité. Ouh, mais j'y pense. En regardant ma montre, il est juste le temps de l'apéro. Or, en ce temps-là, rapporte la légende, il y avait un moine du nom de Ten Ying Feng qui, avant de passer au-delà du chagrin, comme tout homme en ce monde, interrogea ainsi ses disciples. « On a vu des moines mourir couchés, assis, mais y en a-t-il qui sont morts debout ?»« Oui, répondirent les disciples. » Et ils nommèrent le troisième patriarche, Seng Tsang, qui mourut debout, les mains croisées sur le nombril en l'an 606, et aussi Shilchen de Wangch, qui décéda en 906. Il fit 7 pas et mourut en plein élan de sa marche. « Fort bien, » dit Ten Ying Feng. « Et à votre connaissance, y a-t-il des moines qui expirèrent la tête en bas ?»« Non, » firent les disciples étonnés. « Aucun sage à notre connaissance n'est mort ainsi. »« Ah !» fit Ten Ying Feng. Il se mit la tête en bas. Et il mourut ainsi. Quand on voulut emmener le maître sur le bûcher funéraire, sa position insolite gêna tout le monde. La cadette de Teng, une jeune nonne qui assistait aux funérailles, voyant l'embarras des moines, apostropha ainsi son frère mort. « Sans doute étais-tu un saint homme, » s'écria-t-elle. « Mais tu importunes l'assemblée avec tes excentricités. » Et d'une ferme poussée, elle fit tomber le cadavre de son frère, ce qui permit de le porter sans difficulté jusqu'au crématoire.
Contes et lectures. Carl Rue Exeguerre.